Hasard.
Présente.
Romain de Loustal.
Présent.
Béatrice Tayoni-Poster.
Présente.
Mathias Mignard.
Présent.
Béatrice Ponsic.
Présente.
Johan Servigna.
Présent.
Cécile Corsinos.
Présente.
Michel Battiti.
Présent.
Gilles Chicot.
Présent.
Merci. Donc on va passer à l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des observations? Passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Et on va donc délibérer sur le compte-rendu du conseil municipal qui était en date du 12 février 2015. Donc, Cécile Corsinos, vous avez fait part d'une observation.
Oui. Cette observation concernait le fait que j'avais relevé pendant le conseil qu'il n'y avait pas l'annexe à la convention relative à la numérisation des actes dans le cadre du contrôle de légalité. Et donc ça n'avait pas été reporté dans le compte rendu. Donc j'avais demandé à ce que ce soit non.
Alors, donc juste pour rappel, dans le règlement intérieur, on vous communique les conventions et les annexes aux conventions sur demande. Donc quand les conventions ne sont pas trop volumineuses, on vous les met d'emblée jointes à la petite synthèse, hein, la note de synthèse qui est envoyée avec la convocation. Sinon, on vous la remet sur demande. Donc, ça a été le cas pendant que vous avez demandé la convention sur Orange. On vous l'envoie par mail, donc là, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne votre demande, je crois que sur place, immédiatement, Nathalie, même par mail, vous avez envoyé tout de suite l'annexe avec l'ensemble des services. Ce qu'on va vous proposer, c'est de reporter la procédure la plus simple, quand même. C'est que l'on reporte dans ce compte-rendu de ce conseil municipal du 10 mars l'observation que vous faites.
Mmh.
D'accord ? Parce que si on doit modifier le compte-rendu, en réalité, on est tenu, après sa modification, d'à nouveau vous le soumettre au conseil municipal suivant, ce qui fait vraiment quelque chose de très lourd à gérer. Donc ce qu'on vous propose, c'est de reporter votre observation dans le compte-rendu
d'aujourd'hui.
D'aujourd'hui.
Ah oui, voilà. Si vous voulez. Aucun problème.
Donc est-ce qu'il y a d'autres observations sur... Oui, Michel ?
Alors j'étais absente du coup, normalement je ne peux pas parler, mais du coup c'est pas indiqué que j'étais absente. Voilà.
Les absences sont pas notées, oui. Toi non plus, tu n'es pas noté.
Ah, oui. Bon, on le rajoutera. Mais oui, mais c'est vrai qu'on met les excusés.
Moi, c'est pareil, je n'étais pas là.
C'est quelque chose, je ne sais pas ce qu'on est tenu de le mettre, comme ça. On met les excusés, sous-entendu, ceux qui sont ni présents ni excusés sont absents, mais on le rajoutera si vous préférez. Moyennant ces deux observations, donc signaler la remarque de l'incorsinence relative à l'annexe de la convention et les absences de M. Servigna et Mme Battiti, c'est une autre observation. Dans ce cas-là, je passe au vote. Donc, pour l'adoption du compte-rendu du conseil municipal du 12 février 2015, qui vote contre, qui s'abstient, donc il est approuvé à l'unanimité. Et donc nous allons passer au premier point à l'ordre du jour, qui est l'installation d'un marché hebdomadaire le dimanche matin à Morlaix-les-Montpellier. Donc juste, je vais donner la parole à Denis ou Pauline. Denis ? Pour introduire ce point-là, juste rappeler que c'était un élément important de notre campagne et puis que voilà, on est content de pouvoir le mettre en place maintenant. Et donc voilà, on va expliquer un petit peu l'esprit, je pense, de la création de ce marché, les objectifs qu'on poursuit et son fonctionnement.
Oui, effectivement, c'était un point important de la campagne. C'est une demande forte de la population. Et puis il y avait une expérience avec ce qu'avait réalisé Jérémy fin septembre avec un mini-marché qui avait effectivement bien plu, autant pour les exposants que pour la population. On a donc démarré depuis le mois de décembre en fait, hein, une réflexion de préparation de ce nouveau marché avec des objectifs assez clairs. L'idée c'est d'associer des producteurs, d'avoir une démarche plutôt circuit court ou producteur direct.
Je crois que Pierre l'a fait.
Oui, ça tourne. Faire en sorte qu'on privilégie aussi des déplacements doux, donc éviter que le marché se transforme en drive. Dans ce sens-là, on a exclu immédiatement en fait, de le localiser sur l'esplanade. D'y associer les commerçants, c'est aussi une raison pour laquelle on a refusé de l'installer sur l'esplanade, de façon à ce que ça fasse venir aussi du monde dans les commerces. les viticulteurs s'ils le souhaitent bien sûr, et que ce soit aussi un lieu d'animation et pas seulement un lieu de vente. Mais c'est ce qu'on a fait depuis, on a proposé aux associations qu'elles s'associent bien sûr au marché pour animer, présenter leurs événements, faire vivre en fait ce marché régulièrement. Donc on a construit un projet en fait qui s'instancie dans une charte qui a été remise aux exposants, qui privilégie donc des modes de production et de vente sous forme de circuit court, des produits de type éthique on va dire, enfin en respect des saisons, de l'environnement, qui permettent d'accéder aussi un accès aux commerçants locaux, enfin, en sorte que ça leur soit ouvert, même si leur mode de production ou de vente n'est pas forcément dans les critères de la charte pour les autres producteurs, et puis qui privilégie une gestion collégiale pour différentes raisons. La première, c'est minimiser en fait l'impact financier de l'organisation de ce marché pour la commune. Et la deuxième, c'est vraiment faire en sorte qu'à partir d'un noyau dur d'exposants qu'on a constitué, puisse vivre en fait un marché qui va s'étendre et se développer. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, en faisant perdurer un esprit et un mode de consommation qu'on souhaite privilégier. Donc on est prêt à démarrer aujourd'hui, donc dimanche prochain, donc le 15 mars, avec 7 premiers producteurs. Ou revendeurs en circuit court, hein, parce qu'il y a boucher, charcutier, poissonnier, fromager. Bien sûr, c'est également ouvert aux producteurs du village, des producteurs d'asperges, de fruits, qui participeront en saison à la vente de leurs produits, et aux commerçants s'ils le souhaitent, bien sûr. Et lors d'événements qu'on pourra organiser ponctuellement à des artisans, toujours avec ce même esprit, l'idée que sans qu'ils conçoivent forcément tout directement, mais ils transforment même une dernière partie du produit et qui pourraient être présents sur des événements liés à des événements festifs en fait sur le village. Donc comme j'ai dit, on a établi une charte qui établit aussi un comité de marché, donc on va y revenir avec des représentants des élus, de la population et des exposants qui vont gérer, organiser en particulier le suivi des demandes de nouvelles installations et puis éventuellement régir tous les problèmes qui pourraient survenir sur le fonctionnement du marché. Et un dernier point important, c'est justement pour minimiser aussi les frais et la charge pour la municipalité, ça fait partie de la gestion collégiale, les exposants sont tenus de nettoyer le marché, donc il n'y a pas de gestion non plus de déchets ou de nettoyage à l'issue du marché. Donc concrètement aujourd'hui c'est un marché qui va se tenir dans la rue des Platanes, donc vous avez vu je pense les informations aujourd'hui, en démarrant par le carrefour côté commerce, donc cette rue, la partie de rue qui va de l'épicerie jusqu'à l'école sera fermée avec une déviation. À partir de 7h pour l'installation des premiers exposants, le marché ouvre à 8h30, se termine à 12h30 et les exposants ont une heure pour finir de ranger et évacuer la rue. Voilà, on espère que c'est un marché qui va bien tourner. On a d'emblée aussi éliminé les autres jours de la semaine, en particulier le samedi, où on n'avait absolument aucune chance d'attirer des exposants de qualité, puisque sur un petit village, il aurait été très difficile de justifier en fait, un retour sur investissement intéressant pour eux. Donc le dimanche est plutôt un jour qui les intéresse. On a été agréablement surpris aussi de constater que les gens ont envie de venir ici. Ils savent bien qu'il y a un potentiel, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que bah, les gens sortent et on a des chances de croiser quelques clients au cours du marché. Donc on a déjà des demandes depuis que les informations sont sorties sur des nouveaux exposants qui veulent intervenir sur le marché également. Mais on a cherché à constituer ce noyau dur, comme j'ai dit tout à l'heure, d'exposants qui vont être là toutes les semaines. C'était un critère important pour qu'effectivement ce roulement soit assuré, quitte à ce qu'ensuite on ait des gens qui interviennent moins régulièrement, mais on sait qu'on peut compter sur ces 7 premiers exposants toutes les semaines. Donc voilà, vous êtes tous cordialement invités à l'inauguration qui aura lieu donc dimanche à 11h. Et puis ensuite à bien sûr faire vivre ce marché autant que vous le souhaitez et vous le pouvez les dimanches suivants.
Juste avant de donner la parole, donc on va demander au conseil municipal de délibérer, déjà d'autoriser la création du marché, d'approuver la charte de fonctionnement qui a été jointe à la convocation, de fixer les tarifs. Des droits de place sur la base de 1 euro du mètre linéaire sans électricité et 1,50 € du mètre linéaire avec fourniture d'électricité, On va vous demander d'autoriser la création du comité consultatif dont a parlé Denis, qui est composé donc de 3 collèges, le collège des commerçants, le collège des consommateurs et le collège de la municipalité, avec 2 représentants titulaires à chaque fois, chaque collège ayant une voix. Et on va vous demander de désigner pour le conseil municipal 2 représentants, 2 titulaires et 2 suppléants. Donc on va vous proposer en titulaire Mathias Mignard et Denis Pierre, et en suppléant Françoise Hazard et Betty Poncy. Voilà, donc...
Non, juste ajouter qu'on va aussi, on a pour idée de proposer aux associations murvielloises de venir participer au marché, une association par exemple par dimanche, pour venir à chaque fois faire un roulement, pour venir présenter ses activités, faire une animation. Voilà. On va leur proposer, après je ne sais pas si elles viendront, mais en tous les cas, ça sera une proposition.
J'ai entendu déjà que le comité des fêtes se proposait de roulement, éventuellement
de venir le 29 pour proposer quelque chose qui n'est pas encore défini.
Voilà. Et le 22, déjà, on a invité l'association pour les recherches médicales pour la maladie de Rett, qui viendra présenter dans ses activités et en même temps présenter la course que l'on va organiser le 2 mai. Ce sera l'occasion. Voilà.
D'accord. Ouais, ce qu'on leur a vraiment proposé, c'est qu'elles s'en emparent comme un forum, hein, autant pour annoncer effectivement les événements que pour réaliser des animations même directement. En fait. Non, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Sérignan.
Oui. Oui. La question, juste pour localiser, rue des Platanes, c'est juste après l'épicerie, là, quand on remonte au niveau de l'école, c'est tout ce secteur-là qui sera fermé. Ouais. Ça sera fermé, il y a une déviation qui se fera.
La déviation habituelle quand il y a des événements sur l'espace.
Ah, par l'école,
par le stade, la maison de retraite et remonter au quartier.
Ah oui, dans l'autre sens, ok, d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc c'est très bien d'avoir... enfin, moi, je suis complètement partisan de ce marché-là. C'est une très, très bonne idée. Vis-à-vis du comité consultatif, vous indiquez l'exposant qui est présent. Est-ce qu'à l'intérieur, il ne faudrait pas une personne des commerçants, un représentant des commerçants? La crainte que on a eu le flyer, comme tout le monde, dans les boîtes aux lettres, là. Et j'ai cru voir, enfin j'ai de mémoire, hein, je dis, hein, qu'il y avait par exemple un vendeur de légumes, fruits et légumes, quoi, de mémoire. Est-ce que ça ne va pas aller à l'encontre, par exemple, de l'épicerie qui vend les fruits et légumes? Alors je ne sais pas s'il y a un boulanger, mais s'il y en a un, est-ce que ça ne va pas aller à l'encontre du bureau de tabac? Est-ce que du coup tout ça ne va pas se court-circuiter un petit peu? Et du coup, les gens qui viendront, aussi bien des gens de l'extérieur, je l'espère, et des gens de Murviel en priorité quand même, faire leurs courses en fait tout le dimanche et du coup ne plus venir consommer le petit légume ou la petite pomme ou la baguette ou autre chose, quoi. Voilà. Est-ce que ça, il y a une concertation avec eux aussi qui a été faite et qu'est-ce qu'ils en pensent?
Oui, bien sûr. J'ai oublié de préciser qu'on a eu 2 réunions avec eux sur le sujet, en fait. D'accord. Hein, une préalable et puis une ensuite de présentation de l'avancement du projet. Et ils sont tout à fait favorables, en fait, à l'installation du marché. Alors, effectivement, on peut imaginer que ça crée de la concurrence. De toute façon, ça va en créer. Parce que, effectivement, le maraîcher, il va empiéter sur les ventes de produits de l'épicerie, bien sûr. Même chose pour le fromager. Enfin, donc, l'idée, c'est que ce soit complémentaire. Et ce qui a été très bien intégré par les commerçants, c'est qu'ils ont tout à fait compris et ils souhaitent que ça se passe comme ça, qu'à partir du moment où on attire du monde, ça va aussi leur être profitable. D'accord. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument que ce soit à proximité des commerces, même si effectivement, à première vue, on peut imaginer qu'il y ait un peu de concurrence sur leur vente directe. Mais il manquera toujours quelque chose des produits qui font que ça va emmener bien sûr aussi des gens chez les commerces. En fait, quoi. Donc ils sont parfaitement en accord avec la démarche. Et c'est avec eux que tout ça s'est construit, bien sûr, pour qu'on ne soit pas, bien sûr, en opposition. Hein, c'était un élément fort de la démarche.
Ouais, ils sont prêts à entendre que peut-être qu'ils gagneront moins sur certaines choses, mais l'influence supplémentaire qui arrive fait que ça pourrait compenser.
L'enjeu, c'est qu'à partir du moment où on anime le village, on fait venir du monde dans le village, et justement, pas avec ce que je disais en introduction, pas sur le principe d'un drive, quoi. Les gens ne vont pas venir en voiture, c'est pour ça qu'on avait, je disais tout à l'heure, refusé d'emblée de le mettre sur l'esplanade, où les gens pouvaient venir en voiture, faire le tour du marché et repartir, et du coup, les commerçants voyaient aucun client, en fait. Donc l'idée de faire venir les gens au plus près des commerces, en ayant toujours la possibilité de parking, bien sûr, à l'esplanade, à la mairie, etc., font que tout ça, ça va bénéficier normalement à l'épicerie, au bureau de tabac et au bar, on l'espère. En fait.
D'accord.
Mais oui, c'est fait avec eux et on va continuer, bien sûr, à les associer à la démarche.
L'idée de mettre aussi le marché dans un endroit bien visible fait que on va laisser en permanence des banderoles, comme dans beaucoup de communes, hein, pour annoncer. Ça permet d'attirer, d'avoir une affluence et donc de monter la fréquentation pour les commerces.
Au niveau de la déviation, donc les gens vont descendre à la poste et vont tourner devant la maison de retraite.
En fait, comme quand on fait le 8 mai, le 11 novembre.
pour la fête du rat ou
pour les fêtes du rat ou tout ça, c'est la même déviation.
L'idée, c'est que les gens ne s'engagent pas, enfin ceux qui viennent de Montarnaud, par exemple, ne s'engagent pas dans le cœur du village, donc à l'entrée, côté stade, en fait, tout le monde, voilà, c'est les mêmes déviations.
Ils s'engagent pour se garer s'ils veulent aller au marché, voilà. Mais sinon, ils contournent.
En fait, le plus gênant, c'est ceux qui arrivent de l'est et du sud pour vouloir aller se garer de l'autre côté, en fait, du marché, puisque c'est le seul endroit, bah, effectivement, eux, ils ont un petit détour à faire.
Là, c'est pour ça qu'on a laissé la mairie,
la mairie
qui est disponible, du coup, ouais, ça pourrait se faire comme ça.
Ça laisse des places quand même.
Ok.
Oui, Mme Corsilus.
Oui, tout à l'heure, dans votre complément d'exposé, vous avez indiqué qu'il y avait la charte qui était jointe à la convocation pour le...
Je ne l'avais pas dans mon endroit.
Ah non. Page 6. Hein. 6 à 9.
La charte, elle y était...
Page 6 à 9 dans le...
Ah, elle est reproduite dans la note.
Ah, d'accord.
Ah, d'accord. Je croyais que c'était un document...
Dans la note, l'annexe, la note de synthèse.
Je croyais que c'était un document à part. Je ne sais plus, après j'ai lu.
D'accord.
Comme je n'ai pas pris ma convocation...
Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres commentaires?
Est-ce que tu peux rappeler les titulaires?
Alors, titulaires, Mathias Mignard et Denis Pierre, et suppléants, Françoise Hazard, Betty Poncy.
Merci.
J'ai juste une. Il y avait déjà eu. Enfin, j'ai cru entendre dans le village qu'il y avait déjà eu cette expérience-là il y a longtemps de ça, non? D'un marché, non?
En 90. Et d'accord. C'était sur l'esplanade, il y avait trois commerces.
Non, on a fait le marché bio quand on a fait un marché bio.
Oui, mais enfin, ça c'était sur. Ça, c'est sur une journée.
Mais, oui, c'est ponctuellement, qui avait bien fonctionné. Ouais,
et pourquoi ça s'était un peu essoufflé et arrêté?
Pour demander à l'ancien.
Je sais pas. Non, mais pas.
Bah, c'était sur l'esplanade, c'est vrai que c'est quand même un lieu.
Plus froid.
Pourquoi commerçant de l'espace?
Je crois que c'était le jeudi ou vendredi.
C'était pas du tout
sur la semaine.
La semaine, c'est plus difficile quand même.
Oui, c'était en semaine.
Ah oui, d'accord. Ça peut expliquer beaucoup de choses. D'accord.
L'idée, c'est que c'est un marché donc qui fonctionne en façon hebdomadaire, mais que occasionnellement. Par exemple, pour Noël ou pour d'autres occasions, on est un marché plus.
Une activité spéciale.
Et plus grand, qui sont organisées, plus
grand. Oui, ou les fêtes, comme j'ai entendu, ou les fêtes spécifiques qu'il pourrait avoir.
Juste une remarque aussi, on peut imaginer qu'il y aura des retombées intéressantes pour les caveaux, je pense, parce que nos producteurs agricoles sur la commune, c'est avant tout des vignerons. Alors ils ont fait le choix de ne pas être présents tous les dimanches au marché parce que effectivement leurs produits sont bien distribués dans les commerces locaux. Et pour le coup, peut-être que là, les gens. Ils viendront au marché, iront dans les commerces locaux acheter du vin. Mais on peut imaginer aussi que des gens qui viennent au marché à Mirviel en profitent pour aller faire un petit tour dans les caveaux pas loin et acheter du vin. Donc je pense qu'il peut y avoir des retombées intéressantes pour nos vignerons.
De toute façon, on fera un bilan dès septembre pour voir aussi avec les commerçants comment ça se passe. Quoi.
En tout cas, la volonté, ça a été de commencer modestement, enfin avec 7 exposants. Pour éventuellement petit à petit s'agrandir, plutôt que l'inverse, comme on l'a vu dans d'autres communes comme à La Vérune où ça ou à Sossan, où ça se réduit quoi.
Même Saint-Georges.
Saint-Georges, il y avait un beau truc, ça tombe.
C'est le lieu, je pense.
Puis c'est pas si mal que ça, le lieu, mais.
C'est
tout.
Le lieu a été choisi aussi de concertation avec les exposants qui ont eux l'habitude de là où. Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un lieu, la réussite, le choix d'un lieu.
Il fallait de la visibilité, effectivement. Là, l'intérêt, c'est qu'on va nécessairement tomber dessus, d'où qu'on vienne, en fait. Donc, il y a mention d'habit Muriel,
on sait, mais... Il rate la déviation, il va tomber dessus.
Voilà, donc on ne peut pas y échapper.
C'est peut-être un moyen, au début, il faut peut-être enlever la déviation, de manière à ce qu'il s'arrive planté ici. Et
alors, ce marché va s'appeler le...
Le court-circuit.
Le court-circuit, voilà.
Voilà. Et à l'occasion, sur la communication, vous l'avez sans doute vu, on inaugure une mascotte sous forme de poule qu'on utilisera pour communiquer autour des modes de consommation, de l'écologie, de l'environnement. Donc c'est un personnage en pâte à modeler qu'on peut utiliser dans différentes positions pour illustrer et essayer de faire une espèce de fil rouge entre les différentes communications autour de ce thème.
Bien sûr.
Le rat était déjà pris.
Et en plus, on a un cocotologue sur le marché. Il nous vendra des poules.
Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres observations? Écoutez, dans ce cas-là, je vais passer au vote. Donc, Est-ce que donc vous autorisez la création d'un marché municipal hebdomadaire rue des Platanes le dimanche matin de 9h30 à 12h30? Est-ce que vous approuvez la charte de fonctionnement du marché qui a été annexée? De fixer, comme je vous disais, les tarifs, les droits de base, les droits de place sur la base d'un euro du mètre linéaire sans électricité, 1,50€ du mètre linéaire avec fourniture d'électricité? Est-ce que vous autorisez la création du comité consultatif chargé de gérer le fonctionnement du marché et d'examiner les demandes d'adhésion adressées en mairie? Et est-ce que vous acceptez de désigner deux titulaires, donc Mathias Mignard et Denis Pierre, et deux suppléants, Françoise Hazard et Betty Poncic, pour siéger au collège du conseil municipal au sein de ce comité consultatif? Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc on vous invite tous à venir nombreux dimanche matin au marché, notamment à 11h où on aura une fanfare concernant l'inauguration du marché. J'espère qu'il fera beau.
Vous pouvez même participer en apportant des petites choses à grignoter, mais en restant quand même pas de chez Métro, vous voyez,
circuit court. Cacahuète locale.
On passe au deuxième point à l'ordre du jour, donc la création d'un poste de contrat d'accompagnement dans l'emploi pour un agent d'entretien au centre de loisirs sans hébergement, donc au centre Les Pitchounes à Murviel. Donc en fait, nous avons le projet de créer un emploi de contrat d'accompagnement dans l'emploi pour une durée de 20 heures pour recruter un agent d'entretien au centre de loisirs. Donc premièrement, ce que je souhaite signaler là, c'est que vous le voyez, dorénavant, nous allons en conseil municipal délibérer de la création de ce type de poste, notamment en contrat aidé, chose qui n'était pas faite jusqu'à présent. Qui doit se faire. Et donc là, l'objectif est donc de remplacer des personnes qui sont en fait des animatrices, comme par hasard ce sont les femmes qui font le ménage, sont de loisirs, donc des animatrices qui sont elles-mêmes en contrat aidé et qui étaient pour partie sur de l'animation, notamment en temps scolaire, hein, c'est-à-dire sur la garderie ou sur le... aussi pendant les mercredis, etc. Mercredi après-midi. Et qui faisait également du ménage. L'idée, c'est que le ménage dorénavant soit fait par une personne déjà spécialisée dans la question, qui soit en contrat aidé, et donc de libérer les animatrices de ce temps-là pour qu'elles-mêmes se reconcentrent sur des temps d'animation. D'accord ? Et de ce fait, éviter qu'elle se disperse entre deux fonctions assez différentes et qu'elle se professionnalise, qu'elle concentre leurs compétences sur la question de l'animation déjà. Et ce faisant, de consolider leurs fonctions et d'éviter d'avoir recours, on en a discuté la dernière fois, à des petits contrats de CDD ou des vacations sur de l'animation. Donc l'idée, c'est d'arriver petit à petit par cette réorganisation à faire en sorte que les temps de ménage d'un côté et les temps d'animation de l'autre soient confiés à des personnes qui soient en contrat, je dirais, il s'agit de contrats à durée déterminée, hein, de contrats aidés, mais je dirais des contrats sur des postes fixes, quoi, et non pas des petits CDD ou des petits contrats à la journée ou à la semaine ou à l'heure. Donc, c'est de la réorganisation, on continue notre réorganisation comme on vous l'avait annoncé. Donc on arrive avec cette réorganisation d'un point de vue budgétaire à une économie même, puisque vous savez, sur un contrat aidé, on reçoit une subvention, une aide de l'État, alors que sur les petits contrats CDD ou vacations que l'on fait de façon un petit peu en pointillé pour ajuster, comme on l'a expliqué la dernière fois, des besoins, répondre, je dirais, de façon un petit peu... au coup par coup à des besoins, ce sont des CDD, et là, pour le coup, c'est à charge totale de la commune. Donc ça permet, de conforter, de consolider, de spécialiser des personnes sur des fonctions. Pour nous, il est important que les animateurs soient consolidés sur leurs fonctions d'animation et que les agents d'entretien soient consolidés sur leurs fonctions d'entretien, qui demandent aussi des compétences et des... voilà, spécifique dans le ménage dans des équipements publics requiert certains savoir-faire très précis sur l'utilisation des produits, ouais, sur toutes les normes d'hygiène, etc. Et donc ça nous permet comme ça de bien d'améliorer le service. Voilà, donc ce contrat aidé est ce type de contrat, donc contrat d'accompagnement dans l'emploi aidé par l'État, est réservé notamment aux collectivités et aux établissements publics territoriaux. Ça va s'adresser à des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Donc nous allons procéder, comme nous le faisons depuis que nous sommes arrivés, à la publication dans tous les médias de ce recrutement, de l'offre d'emploi et de la fiche de poste, donc sur Murviel et ailleurs. Et voilà, nous allons recruter en toute transparence. Nous espérons que des Murviellois vont se présenter à Murvielloises ou Murviellois vont se présenter à ce poste. Mais nous ouvrons bien entendu largement le recrutement. Et donc nous vous demandons de m'autoriser à signer la convention avec Pôle emploi pour créer ce poste. Parce que la prescription de ce contrat est placée sous la responsabilité de Pôle emploi, hein, pour le compte de l'État. Et donc, de m'autoriser à signer la convention avec Pôle emploi, d'une part, et ensuite à signer le contrat à durée déterminée, qui sera un contrat d'une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourrait être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée avec Pôle emploi. Donc j'ouvre au débat. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques, des questions?
Juste une petite question. Moi, je trouve que c'est très bien de professionnaliser. Effectivement, ça permet en plus que les gens s'épanouissent dans leur fonction exacte que dans l'autre fonction qui n'est pas forcément... C'était plus du pour aider. Du coup, est-ce qu'on quand même, dans le cadre de ces contrats-là, des animatrices, est-ce qu'on ne garde pas quand même cette petite fonction-là, dans la mesure où si la personne, parce qu'on prend qu'une personne pour l'entretien, si elle venait à demain être malade, ou je ne sais pas, quoi que ce soit, il va falloir quand même qu'on va prendre qu'on ait un peu cette possibilité à un moment de pouvoir se retourner.
Là, on fait ça maintenant. Et c'est quelque chose qu'on se réserve pour cet été, ce que vous dites là. À l'occasion de la fin de certains contrats aidés qui vont se terminer, on va remettre à plat, au moment où on va passer
l'émission.
L'émission, et redéfinir les contours des fiches de poste de façon à bien continuer là-dedans. Donc l'idée, on a hésité, est-ce qu'il fallait recruter quelqu'un à 35 heures par exemple? On préfère avoir... En plus que ça peut vraiment répondre à des besoins de certaines personnes qui sont en recherche de pas forcément 35 heures,
mais un complément.
Plutôt d'avoir deux personnes pour pouvoir avoir une redondance en effet et qu'elles puissent se remplacer quand l'une est malade ou l'un est malade. L'autre. Mais ça, donc, on fera un deuxième temps à l'occasion des renouvellements. Enfin,
parce que c'est vrai que dans les petites communes, on a besoin de cette souplesse-là, oui, malheureusement.
Tout à fait. Mais l'idée, c'est qu'on arrive petit à petit à constituer une équipe d'entretien avec, donc pour l'instant, on a une fonctionnaire. On a un CDD et on va avoir un contrat aidé. Donc à terme, c'est d'avoir aussi comme ça une équipe d'entretien qui puisse s'organiser et se suppléer si besoin. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Bon, bah écoutez, on va passer au vote. Donc, pour m'autoriser donc, à signer la convention avec Pôle emploi et à signer le contrat de travail avec la personne, on va recruter. Je vous demande qui est contre, qui s'abstient. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Troisième point, demande de subvention au Conseil général au titre. Laurence, est-ce que tu veux intervenir sur le projet de
privatisation?
Non.
On l'avait fait les devis. C'était nécessaire.
Voilà,
les
donc on a.
35 degrés, c'est ça l'été, quand tu manges dans la cantine.
Voilà, donc comme le dit Laurence, dans la salle de cantine, donc au centre de loisirs, à partir du mois de mai et jusqu'au bon, après il y a une pause en juin-juillet, mais à partir du mois de mai et jusqu'au mois de septembre, la température monte très haut. Il paraît qu'on a atteint parfois des 35 degrés.
35-36 degrés.
les enfants sont intenables, mais si on comprend que dans cette ambiance-là, ils ne puissent pas tenir. Déjà, bon, il y a aussi la question du bruit, hein, de la sonorisation qu'on va régler aussi par ailleurs. Mais il y avait la question de cette climatisation. Donc on voudrait vraiment une climatisation d'appoint. Il ne s'agit pas de remettre en place tout le système de chauffage, etc. De la salle. On a également des besoins de rénovation des murs, des revêtements muraux dans de nombreux endroits, notamment les couloirs, etc., et certaines salles. Donc, on avait un devis hein, qui s'élève à 14 346 euros hors taxes pour l'ensemble de ces travaux-là. Et on a la possibilité d'avoir une subvention auprès du Conseil général dans le cadre du programme Patrimoine et Voirie, qui est le programme géré directement par le conseiller général du canton. Et donc, on vous demande de nous autoriser à solliciter une subvention de 8100 euros pour financer donc, une bonne partie, hein, ça correspond à 60% du montant de ces travaux.
Alors les 14 000 euros, c'est la climatisation qui est à peu près, c'était 9 000 euros, c'est ça? Plus, comme tu disais, voilà, la peinture et l'électricité aussi, hein, c'est un global.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette opération?
Non.
Bien, écoutez, nous allons passer au vote. Donc qui est contre la demande de subvention? Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité.
Quand les travaux seront prêts pour cet été, c'est ça?
Oui. Bah, l'idéal, ce serait qu'on ne recommence pas une année et que ce soit au mois de mai. Dès le mois de mai.
Dès le mois de mai, c'est ça.
Quand on voit la température qu'il fait déjà en ce moment. Eh bien, nous allons passer au point 4, qui concerne l'approbation de la convention Orange pour l'installation d'une antenne relais pour le téléphone mobile. Donc là aussi, en introduction, c'est... Je vais donner la parole à Alain sur cette question. C'était une attente extrêmement forte qu'on a ressentie pendant toute la campagne électorale. Le fait de ne pas avoir une couverture de téléphonie mobile extrêmement défaillante fait que ça freine, bien entendu, c'est une gêne pour l'ensemble des Murviellois et ça freine aussi l'activité économique de façon très sérieuse. Ça freine même les relations en général, même au niveau de l'administration. On a du mal à être contacté sous téléphone mobile, c'est difficile. Voilà, donc on a remis ce dossier qui avait été commencé à être traité par l'ancienne municipalité il y a 4 ans, je crois, non, ça fait 5 ans, et qui donc avait été abandonné. Et donc c'est à l'issue de longues transactions avec Orange France Télécom qui durent depuis plus d'un an, enfin non pas plus d'un an, depuis un an, depuis le moment où on a été élu, qu'on arrive enfin à une solution. Donc je laisse Alain présenter ça.
Ces transactions et négociations avec Orange ont été conduites par Denis. Elles ont été longues, difficiles, puisque Orange avait abandonné la construction de ce type d'antenne au profit d'un développement de la 4G.
À partir des antennes déjà existantes.
Donc on a pu obtenir, enfin Denis a négocié, pas négocié, a pu obtenir l'inscription sur l'objet d'Orange en 2015 de la réalisation de l'antenne de Murviel. Donc il a fallu mettre en œuvre maintenant tout ce qu'il y a derrière pour arriver à... Il faut mettre en œuvre toutes les procédures pour pouvoir arriver à une réalisation, l'attente est forte, donc assez rapide. Donc comme l'a dit Isabelle, il y avait deux demandes de déclaration préalable qui avaient été formulées en 2010 et qui avaient été rejetées pour des motifs d'urbanisme, essentiellement pour des... non-compatibilité avec la zone agricole à l'époque, et puis la deuxième, toujours pour cette raison de zone agricole, et puis l'absence de réseau ERDF. Aujourd'hui, il y a Orange et nous a proposé plusieurs sites d'implantation, dont ceux qui avaient été proposés en 2010, il y a 5 ans, à proximité de la ligne à haute tension au-dessus de Murviel, mais qui avait été éliminée déjà en 2010 pour les questions d'interférence avec le courant électrique et puis d'acheminement d'énergie pour faire fonctionner cette antenne. Dans le clocher de l'église, nous a proposé Orange, mais on a immédiatement éliminé cette solution-là, et même Orange était d'accord pour ne pas la mettre en œuvre. Il y a eu deux solutions qui ont été reproposées, donc à proximité des bâtiments techniques, une solution d'une antenne à cet endroit-là, qui avait comme incidence, enfin, un avantage, c'est que au point de vue raccordement électrique, c'était relativement proche et facile à faire. Par contre, qui avait une incidence paysagère sur le site qui était extrêmement forte, puisque quand on arrivait de Saint-Georges, on voyait cette antenne en même temps que le village, et on aurait vu ça au premier plan s'il n'était pas très conforme à nos objectifs de préservation des pièces d'actifs du village. Et le deuxième site qui est posé par Orange, c'est le site initial de 2010, sur une parcelle qui est à proximité de l'ancienne décharge, dont les études de faisabilité avaient déjà été faites par Orange. Et il ressortait de ces études que pour la partie couverture, entre la zone du local technique et la zone de l'ancienne décharge, on avait à peu près les mêmes couvertures. Et que pour la 4G, cet emplacement-là, on avait une couverture de la zone urbaine pratiquement complète. Donc, si vous voulez, là, on pourra acheter des cartes de couverture qu'on pourra projeter tout à l'heure si vous le souhaitez. En plus, au point de vue paysager, c'est une zone, un secteur qui est plus reculé, qui, quand on arrivera aussi de Saint-Georges, on la verra, l'antenne, de toute façon, elle n'est pas enterrée, donc on la verra. Mais on la passera, et une fois qu'on l'aura passée, on verra le village et on ne verra plus l'antenne. Donc c'est l'avantage quand même par rapport au site de l'ancienne décharge. Dans l'autre sens, les perspectives, on aura de toute façon, quel que soit le site choisi, du village, on verra l'antenne dépasser, parce qu'il faut bien que, pour couvrir le village, il faut bien qu'elle soit effectivement visible.
Pour rappeler la hauteur.
La hauteur, non. 25. La hauteur du pylône fait 25 mètres. La totalité, parce qu'il y a une petite antenne de 2 mètres au-dessus, qui je vais vous montrer les photos. Donc, il fallait répondre aussi à toutes les objections qui avaient été posées. Donc, sur la partie agricole, les dispositions réglementaires ont changé, même si le PLU n'a pas changé. Il y a un décret qui est sorti qui permet d'installer en zone agricole, ça c'est valable au niveau national, tous les services, tous les équipements nécessaires aux services publics. Donc ça lève
la
contrainte agricole. L'absence de réseau RDF, effectivement, il n'y a pas de réseau RDF sur ce site-là. Donc il a fallu, et c'est une des conditions qu'on avait mis un peu dans la négociation, enfin, conditions, pour faciliter la négociation, on avait proposé à Orange que la commune prenne en charge la réalisation du réseau d'alimentation électrique de l'antenne. Ce n'était donc facile qu'on bénéficie de 80% de subventions sur ces équipements-là. Et qu'en plus, on a confié donc la maîtrise d'ouvrage à Hero Energy, qui prend en charge la totalité de l'installation, des travaux, de la conduite des travaux, etc. Donc tout ça, ça nous a facilité le travail au niveau de la mairie. Actuellement, il y a des négociations qui sont en cours et qui vont aboutir avec un propriétaire pour installer le long du chemin, puisque le réseau électrique partira du lotissement des Carignans et ira jusqu'à l'ancienne décharge. Et il y a un petit transformateur intermédiaire qui sera installé, mais on a négocié avec un propriétaire et on devrait pouvoir acheter un minimum de terrain. Alors, ce sera de l'ordre de... On n'a pas le relevé de géomètre encore, mais de l'ordre d'une vingtaine de mètres carrés qui sera acquis pour pouvoir installer ce transformateur. En ce qui concerne les autres règles d'urbanisme qui étaient évoquées dans les précédentes demandes, en ce qui concerne le risque incendie, on a fait riper le positionnement de l'antenne de quelques dizaines de mètres pour sortir de la zone bleue du PPRIF. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en zone de risque d'incendie, donc on n'a plus de prescriptions à mettre en termes d'eau, etc. Donc ils nous ont donc permis d'avancer. Pour le PLU, La zone agricole a été réglée par un décret au niveau national. Pour le reste, pour l'implantation, on a communiqué toutes les règles à SPI, qui est le maître d'œuvre d'Orange, qui les a pris en compte en termes de marge de recul par rapport à la voie, par rapport aux parcelles. Donc ça, ce sera calé. La chaîne des bâtiments de France sera consultée. Là, on n'a pas consulté, mais sur les précédentes localisations identiques, il n'avait pas fait d'observation particulière. En ce qui concerne donc le financement de l'alimentation électrique, je l'ai dit, on a une subvention de 80% qui est acquise. Ce qui restera à la charge de commune, un peu moins de 30 000 euros. Il y a un bail qui a été proposé, qui sera signé sur environ 25 mètres carrés pour la location à Orange de l'emprise des installations de l'antenne, moyennant un loyer annuel de 1 000 euros, un bail qui sera réactualisé de 1% tous les ans. On a également demandé, puisque le long de ce chemin qui va de Carignan jusqu'au fond de Vallon, il y a une ligne téléphonique qui passe, et on a demandé à Héro Énergie, l'intérêt d'avoir ce Héro Énergie, de regarder si on peut procéder à l'enfouissement aussi de cette ligne téléphonique, au moins jusqu'à l'entrée du chemin qui mène à l'habitation. Donc là, c'est un coût supplémentaire, mais je n'ai pas le devis complet, mais de l'ordre de 3 000 euros qu'on prendra en charge pour régler ce problème-là. Sinon, si on ne fait pas tout de suite, il faudra revenir ultérieurement et ça sera beaucoup plus cher. Voilà ce qu'on peut dire.
Un complément, voilà. Peut-être, il s'agit d'une antenne Orange pour l'opérateur Orange uniquement, oui. Pour l'instant.
Voilà.
Et bien sûr, on contacte les autres opérateurs pour qu'ils puissent installer leurs propres antennes sur ce pylône. Donc l'investissement est réalisé par Orange, mais ne concerne pour l'instant que le réseau Orange.
Ah. Il risque d'y avoir s'il y a d'autres opérateurs qui viennent installer cette antenne, Orange est obligé de l'accepter, mais avec peut-être probablement des modifications de structure pour
supporter les antennes.
Vous voulez peut-être continuer avant...
On va délibérer, allez-y. Juste pour vous informer, on va délibérer sur l'accord de principe pour installer l'antenne sur la parcelle, en question. Accepter les termes de la convention que l'on a annexée à la délibération. Alors, la convention est très lourde, hein, elle fait 20 pages. Non, elle n'est pas annexée, on peut vous l'envoyer. Elle est très lourde, elle fait plus de 20 pages. Mais, en substance, tout est signalé dans la délibération. Oui, donc...
Oui, effectivement, j'avais une question sur ce sujet-là. Donc, on est bien d'accord, c'est Orange, en tant qu'opérateur, qui l'installe, mais également, il met son propre téléphone dessus, quoi. Ça veut dire que si demain, un Free, SFR, Bouygues et autres vient à vouloir s'installer dessus, moi, ma première question, c'est est-ce qu'il y a capacité à ce que l'antenne puisse accepter des nouveaux équipements ? Parce que ce serait con, vraiment, d'en refaire une pour ça. Et est-ce que Orange, abuse ou exagère du droit d'entrée que pourraient avoir les autres opérateurs à venir s'installer sur l'équipement? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez abordé? Je sais que ça se fait très bien en centre-ville, ils se louent les réseaux pour échanger, mais est-ce que pour ce cas-là, vous avez abordé ce sujet-là? Est-ce que donc, du coup, en termes de dimensionnement, c'est envisageable? Est-ce qu'il y a un droit d'entrée exorbitant qui ferait qu'il y aurait monopole d'Orange sur Murviel?
Alors, depuis 2011, il y a une obligation de mutualisation des pylônes. Donc, de toute façon, Orange a obligation d'accepter les demandes des autres opérateurs. Après, c'est les accords commerciaux entre eux sur les redevances qui leur sont versées.
Non, mais ça, ok.
Mais de toute façon, il y a obligation de mutualisation justement pour mettre fin à des champs de pylônes qu'on avait vu fleurir un peu partout.
Et
donc,
oui.
Donc, de toute façon, c'est obligé de recevoir les opérateurs qui en feraient la demande.
D'accord.
Quitte effectivement à faire des modifications de structure, si des fois ils devaient augmenter de quelques mètres pour supporter les antennes concurrentes.
Ça veut dire que la structure qu'ils imaginent au départ, elle peut être évolutive s'ils sont sollicités par au moins deux. Voilà.
Dans tous les cas, ils doivent pouvoir répondre à cette demande de mutualisation. Ouais.
D'accord.
Personne de SPI qui sont les maîtres d'œuvre qui vont construire la réalisation m'ont indiqué que ça s'est déjà produit et qu'ils avaient à conforter l'antenne pour assurer le support d'antennes de concurrents, enfin d'autres prestataires que Orange.
D'accord.
Okay, Gilles,
ouais. Pour info, je ne sais pas si vous le savez, mais Lors du dernier mandat, on avait demandé à quelques-uns à faire une simulation et on avait fait positionner une grue au niveau de la future antenne, justement, pour visualiser depuis le village l'impact de cette antenne. Donc il y a des photos en mairie. Ouais. Une grue, on a fait monter une grue à la hauteur, 20 mètres, je sais plus, dans ces eaux-là. Justement, pour avoir cet impact, ça doit être en mairie.
Non. J'ai du mal à trouver le dossier de l'ancien.
C'est un peu compliqué, ah ouais, les archives.
On est content, Jules, que tu nous l'apprennes.
C'est bien que tu sois là.
C'est bien d'avoir des vieux là.
Oui,
j'avais une autre question. Qu'est-ce que vous entendez par la quasi-complète de la zone urbaine? Qu'est-ce que vous entendez par zone urbaine? Quand vous dites donc que la 4G donc, arrosera Murviel de la zone urbaine, qu'est-ce qu'on entend par la zone urbaine? Est-ce que c'est le centre-ville proprement dit?
Non, c'est toute la partie bâtie.
Toute la partie bâtie construite. Ah,
d'accord. Donc aussi bien la Rouvière que le centre-ville, que la partie qu'il y a de l'autre côté. D'accord. C'est pour savoir si c'était un terme, je veux dire, au terme du plus, ou si c'était quelque chose de...
La partie construite.
D'accord.
En 3G, il y a certains secteurs qui seront occultés à cause des reliefs ou de la présence d'autres... des reliefs essentiellement, et puis par contre en 4G, on passe largement au-delà de la partie construite actuellement.
Ah oui, parce qu'à l'époque, justement, il disait que le secteur de Rouvière-Longue, qui est dans le Creux, il ne garantissait absolument pas le réseau. Après, tu le garantis.
Regardez les cartes de couverture.
Non, tu dis la même chose. Tu dis qu'en 4G, ça sera couvert, mais en 3G, il y a des zones d'ombre.
En 3G, ce sera plus réduit.
Oui, ce serait bien.
Donc, en fait, oui.
Mais c'est une question entre la 4G et la 3G, puisque l'antenne sera installée avec 3G et 4G, en termes de fréquence. Après, c'est les appareils qui.
Qui les prennent ou qui ne les prennent pas.
Oui,
oui, dans le, je vois effectivement l'architecte des bâtiments de France a évoqué sa simple observation, c'est de dire si on venait à faire des découvertes, il faudrait faire des fouilles. Est-ce que ça veut dire que dans le contrat qu'on signe avec Orange, ils sont prêts à faire les fouilles si demain il y avait des fouilles? Non, mais c'est juste que ça ne nous soit pas reporté à nous de les faire.
C'est pas dans le contrat, mais s'il y a une obligation de fouille, ils la font. Ils n'auront leur déclaration préalable que sous réserve d'avoir fait faire préalablement des sondages par les DRAC, par une série de DRAC.
Parce que c'est parce que au travers de la déclaration de travaux, si c'est ce type là que c'est comme un permis de construire, ils n'auront rien fouillé, donc on ne saura pas s'il y a des choses. Donc c'est vraiment en phase de travaux. Je voudrais pas que Orange se dédouane de ça et que ça soit reporté.
C'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cas de l'instruction de la déclaration préalable, ou du permis de construire, peu importe, dans ce secteur-là, dans le secteur qui sont identifiés, il y a une saisine de la DRAC. La DRAC, le service régional d'archéologie. Et c'est eux qui, au vu des informations qu'ils disposent, qui demandent à ce qu'il y ait des fouilles préventives ou pas. Et s'il y a des fouilles préventives, elles sont mises à charge par ce déménageur. Et s'ils découvrent, ils font des fouilles qui sont supervisées par le ménageur. Donc de toute façon, ce n'est pas la commune qui prendra en charge les fouilles.
D'accord.
Sur 25 mètres carrés.
Oui, non, mais
voilà. À cet endroit-là.
Moi, j'ai fait 25 mètres carrés devant la place Albert Ier, ça m'a coûté 500 000 euros. Hein.
Ouais, mais en plein Montpellier, là.
C'est la métropole qui a les moyens. Mais c'est pas la même chose. J'avais encore une autre question. Qui est le propriétaire de l'antenne, en fait? Parce que le bail...
Orange.
Ah, c'est Orange. À la fin du bail, c'est Orange qui reste propriétaire de... Parce que le bail, il est pour 12 ans, je crois.
Deux ans.
Donc à la fin de ce bail-là, il reste propriétaire d'Orange. L'antenne, pardon.
Le bail, soit il s'arrête à 12 ans, et à ce moment-là, on nettoie tout.
D'accord, ok.
Soit on reconduit encore...
D'accord. Non, mais au bout de 12 ans, il ne bascule pas.
Non. Ouais, mais est-ce qu'il faut l'entretenir après, hein, attention.
Oui, mais bon, il y a des bails qui font qu'il y a des transferts. Les abris de station, par exemple, ils sont transférés automatiquement pour l'euro symbolique. Quoi. C'est pour ça.
Entre toutes les possibilités qu'il y avait, tordues dans tous les sens, c'est le meilleur compromis, cet emplacement-là, entre visibilité.
Efficacité.
couverture et coût d'électrification, je dirais. Voilà, c'est un arbitrage entre le coût, l'aspect esthétique et l'aspect couverture. On aurait pu peut-être rechercher des endroits où on la voit un petit peu moins, mais du coup on serait plus couvert sur le village. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, si on veut le téléphone, ouais, il faut qu'on ait une antenne.
Il faut faire des choix, quoi.
Faire un choix, donc on va totalement assumer. Ce qui est sûr, c'est que à la déchetterie, c'était là pour le coup, d'un point de vue esthétique, c'était inenvisageable. Parce que vous ferez attention quand vous prenez la route de Saint-Georges, on aurait eu l'antenne en plein devant nous.
Sur la route.
Tandis que là, l'antenne sera.
La
sur la gauche, donc il faudra vraiment tourner comme ça pour.
Ils sont en dehors du compte de vision du village. Mmh. Est-ce qu'ils ont prévu de faire, je ne sais pas si vous êtes passé du côté au-dessus de Montarneau, ils ont mis une antenne également.
Oui.
En fait, qui ressemble à un arbre.
Un arbre en plastique.
Voilà, un arbre.
Moi, je suis mitigé sur ce choix-là. Ah. Parce
que de loin, en tout cas, du moins.
Ça fait illusion.
ça fait illusion, quoi. Ils n'ont pas prévu ce genre de dispositif ou quoi que ce soit.
Si on le fait, ce sera notre charge.
D'accord.
C'est 25 000 euros plus cher.
25 000 euros.
Ouais. Ça fait un cher pour
un chastique.
Est-ce qu'on a le droit de décorer, non ?
Peut-être une idée du timing, Denis.
Ah oui, c'est ça.
Alain, excuse-moi, tu parles de Denis et Alain en même temps.
Les travaux de. Le plus long, c'est les travaux d'électrification, hein, qui demandent 3-4 mois. Donc, pratiquement dans 4 mois, au plus tard. Septembre, dans la rentrée, on aura
le
droit d'installer.
Le propriétaire pour le train. Et alors là, moi j'ai dit entre nous pour les bus.
Bon, à la rentrée, on aura le bus, on aura le téléphone.
Maintenant, tu peux téléphoner dans le bus. Ouais. Tu dis pas stop, je passe.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques sur ce dossier? Oui.
La dernière, je vous promets. Vous avez mis dans la synthèse comme quoi Orange avait fait une proposition. Fait part de la demande d'Orange pour l'installation d'un relais téléphonique mobile au lieu du les IF.
Oui.
Mais ça, c'est un relais supplémentaire, c'est ça? Un deuxième.
Non, c'est celui-là.
Ah, c'est celui-là, pardon.
C'est celui-là, ouais.
Les IF, il ne faut pas confondre.
Ouais, ouais, non, mais voilà, je ne comprends pas.
Tout le secteur, il y a la
zone de parce qu'il y a deux IF.
Comment?
Non, non.
Oui,
les
IF.
Il y a deux
Bien, écoutez, je vais passer au vote s'il y a d'autres remarques, observations. Donc nous allons. Donc, il s'agit de donner un accord de principe pour l'installation de l'antenne de relais téléphonique mobile sur la parcelle qui a été citée. Hein. Parcelle 573, section 1, aux IF, et d'accepter les termes de la convention que l'on va signer avec Orange. De m'autoriser ensuite à signer tous les documents afférents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, on va. Ah oui! Avant que vous partiez, on va faire tourner les feuilles de présence. Juste, je voulais vous informer, en fin de conseil, d'une chose. Nous avons recruté le cabinet d'études qui va réaliser avec nous notre étude de déplacement. Donc, c'est le cabinet Indigo. Donc, on avait évoqué hein, dans le cadre du budget cette étude. C'est une étude de déplacement qui va viser, je le rappelle, à définir le schéma de déplacement à long terme, hein, sur l'ensemble de la commune, donc que ce soit déplacement en voiture, piéton, déplacement doux, véhicule, vélo, etc. Le schéma de stationnement, qui devient vraiment une préoccupation très importante à Murviel, mais également les schémas des voiries. Donc ce qu'on appelle les coupes en profil, qui vont nous permettre à partir de là de commencer à chiffrer notamment les travaux sur les quartiers résidentiels. Donc chose que j'avais expliqué en réunion publique avec les habitants du quartier résidentiel. Et puis c'est aussi une étude qui va nous permettre de, par rapport aux zones d'extension potentielles, de voir comment éventuellement créer de nouveaux axes, améliorer notamment le lien entre la partie sud de village, la rivière longue, et le cœur de village, le centre. Aujourd'hui, il y a des difficultés de lien, hein, vous savez, entre ces parties. Donc c'est vraiment une étude qui va nous permettre de je dirais, pour utiliser une image, de dresser un peu de dessiner le squelette de notre projet urbain, l'ensemble de ces voies de déplacement et de ces zones de stationnement qui permettent ensuite de mettre de la chair, c'est-à-dire tout le bâti, la production logement que l'on va pouvoir mettre autour de ce squelette. Donc c'est l'étape numéro 1. On reçoit pour une première réunion bientôt le bureau d'études, et notre idée c'est que dès le départ on associe très étroitement la population, bien entendu murviennoise, à l'élaboration de cette étude, puisqu'il en va vraiment d'une réflexion en profondeur pour l'avenir. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir régulièrement devant le conseil municipal pour faire le point. C'est une étude qui devrait aboutir à la fin de l'été.
Est-ce qu'on pourrait recevoir les comptes rendus du conseil et les convocations par mail? Parce que moi, aller à la poste à chaque fois, franchement.
Alors, sur le point des convocations.
Je vais chercher ce matin la convoque du conseil précédent.
Étant donné que certains conseillers pour un conseiller municipal, remis en cause le fait qu'ils aient reçu dans leur boîte aux lettres la convocation en temps et en heure. Dorénavant, nous, on ne veut plus avoir de donc on envoie un recommandé accusé de réception.
Et est-ce qu'on peut faire le doublon? Parce que moi, je vais
vous
pas
envoyez par mail, on note ça.
Ah ouais, ça serait quand même plus pratique. Voilà.
Je reviens sur ce que vous venez de... Enfin, précédemment, là, sur l'étude...
De déplacement,
là, vous avez indiqué que vous vouliez faire participer la population. Comment ça va se passer? Quel mode de concertation?
On va y revenir.
D'accord.
Il faut faire ça bien. Il ne faut pas que ce soit uniquement de la concertation de façade.
C'est pas de l'information.
Voilà. Pas que de l'information. Il en faut de l'information. Oui, bien sûr. Il faut de la concertation. Donc, à quel moment, selon les différentes étapes de l'étude, la partie diagnostic, la partie scénario, à quel moment c'est le plus indiqué d'utiliser telle ou telle méthode de travail en atelier, le travail en réunion publique, Voilà, donc à chaque étape, il y a deux étapes importantes. C'est l'étape du départ, de diagnostic sur la situation, et puis c'est l'étape des scénarios qu'on va retenir. Et à chaque fois, il y a des dispositifs plus ou moins adaptés
et différents.
Donc c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse bien avec le bureau d'études, mais on va mettre en place un comité plus tard.
Ces questions-là sont inscrites à l'ordre du jour de la première réunion qu'on va avoir avec le bureau d'études. Je suis dans la démarche, il va lancer du diagnostic. Il faut que dans le cadre du diagnostic, on sache comment on associe la population avec ce diagnostic.
On va avoir un outil aussi qui va nous aider à tout ça, c'est le site web, qui va très prochainement, si la fin du mois est opérationnelle. Quand tout le monde aura donné sa photo, pour mettre sur le site web. On n'attend plus que ça. Presque. Non, je vous signale, Benjamin vous attend pour prendre une photo.
Envoyer une photo.
L'idée, c'était... Benjamin, on aurait bien aimé qu'on soit un petit peu tous sur le même...
Même fond.
Il y a un fond blanc. Ouais,
il est très soigneux sur l'esthétique, quand même. C'est normal, ça. Est-ce qu'il y a d'autres...
On va faire des corrections avec Photoshop.
Romain, Denis, Serge, Françoise, Michel et Gilles.
Les noms sont lâchés.
Écoutez,
j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir au prochain conseil municipal un point sur les éventuelles négociations en cours avec GGL, s'il y en a encore.
On fera le point la prochaine fois.
Pour qu'on sache un petit peu où ça en est de tout ça.
D'accord,
merci.
D'autres points? Écoutez, je vous remercie. La séance est close.